Le propos était d'abord de non pas de vous raconter la loi de janvier 88, mais de vous dire dans quelles circonstances celle-ci aujourd'hui est encore applicable, pourquoi elle est applicable, et comment une loi qui a plus de 20 ans, sur un sujet qui est en permanente évolution, peut toujours être d'actualité. Donc, d'abord, merci de m'avoir convié. Pour beaucoup, peut-être ce nom disait-il quelque chose, puisque la référence à la loi qui est homonyme est un peu partout, mais derrière le nom d'un législateur, il n'y a pas toujours un visage ou une personne. Voilà. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne me connaissez pas. Donc, comme vous le savez, la fraude informatique, ou faut-il uniquement parler de cybercriminalité, c'est le titre du colloque, représente, et je vous demande au cours de mes propos d'imaginer bon, ce qu'est la situation aujourd'hui, vous la connaissez, ce qu'elle était il y a plus de 20 ans, les propos qu'on tient aujourd'hui n'étaient pas évidents à tenir il y a plus de 20 ans, et la prise de conscience n'était pas totalement réalisée dans tous les secteurs de l'économie, mais aujourd'hui il n'est pas temps que cela touche absolument tous les secteurs de l'économie. La fraude bancaire, les jeux, la contrefaçon, la violation de la propriété intellectuelle et industrielle, et même personnelle, etc. Donc, elle peut fragiliser une économie. Quand on voit les vitesses de propagation des crises économiques, on imagine ce que peut être une vitesse de propagation d'une atteinte aux données informatiques. On peut imaginer le blocage d'un système de réservation de compagnies aériennes, par exemple, ou de bagages, ou bien les impôts. Le système fiscal est à la merci, et donc un gouvernement qui n'a plus aucun moyen de gouverner, qui est paralysé. Cela constitue donc un nouveau support, cette loi, pour commettre toutes sortes d'infractions qui vont du simple délit jusqu'au crime. Pédopornographie, incitation au terrorisme, à la haine raciale, atteinte aux personnes et aux biens. Alors, dans les cadres des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 88, et ça, vous ne l'avez pas dans le journal officiel, qui d'ailleurs a été signé, co-signé à l'époque, voté à l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat, et co-signé par le président de la République de l'époque, c'est-à-dire François Mitterrand, et par le garde des Sceaux de l'époque, M. Chalandon. J'avais souhaité créer un cadre législatif suffisamment large, non restrictif, pour répondre à l'apparition des nouvelles technologies qu'on sentait poindre à cette époque-là. Ainsi, à l'article 300... Alors, depuis, ce n'est plus exactement la loi homonyme, elle était intégrée dans le code pénal. Du coup, elle a perdu le nom de son père. Mais ce n'est pas grave, c'est le code pénal. Godefroy est devenu code pénal. Donc, dans l'article 323, alinéa 1 du code pénal, il est donc prévu que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de 2 à 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d'amende. De même, vous avez remarqué qu'il n'y avait aucune définition précise du terme « système de traitement automatisé de données ». Lors des débats, cela a été mis en avant. Pourquoi ? Pour ne pas lier l'incrimination à un état trop passager de la technologie. Donc on a tout le temps eu cette préoccupation de la pérennité du texte. Ceci a permis à la jurisprudence d'en faire une interprétation large. Ainsi est considéré comme système le réseau France Télécom, c'est un système, le réseau carte bancaire, mais également un disque dur d'ordinateur, un téléphone portable, etc. Et je vous demande chaque fois de vous reporter à ce qu'étaient les mentalités de l'époque. Donc mon texte s'adapte aux nouvelles formes de criminalité et de délinquance qui se situent dans un espace virtuel, C'est en quelque sorte une loi râteau, comme l'on dit, qui répond à la démocratisation de l'accès à l'informatique et à la globalisation des réseaux. Au niveau juridique, deux moyens sont suffisants. L'intrusion dans le système et le maintien dans le système. Je voudrais revenir quelques instants sur ces notions qui permettent à elles seules de punir toutes les intrusions illégales. En effet, la condition préalable de l'intrusion peut être suffisante, mais elle peut également survenir par hasard. C'est alors que le maintien dans le système sera constitutif de l'infraction, c'est en quelque sorte une violation de domicile. Et je me souviens que lors des débats, pourtant ce n'est pas d'hier, on avait imaginé, vous connaissez le cas, la porte ouverte d'un bureau, un écran qui n'est pas éteint, quelqu'un qui passe dans le couloir et qui, par hasard, regarde s'il y a sur l'écran. Et c'est là où est le passage du simple regard sur l'écran à la copie de ce qu'il y a sur l'écran. À ce niveau, l'infraction repose donc sur l'élément moral, sur le fait que l'auteur sait pertinemment qu'il n'a pas le droit de se trouver là. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 octobre 2009 a par exemple estimé qu'une mise à disposition sans motif légitime de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données était passible de 1 000 euros d'amende. En outre, l'article 323 alinéa 2 du Code pénal sanctionne la perturbation du fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données qui est passible, lui, de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le 323 alinéa 3 vise la modification frauduleuse de données, par exemple sur une base de données. Elle est passible de 5 ans à 75 000 euros d'amende. Le 323 alinéa 3-1, lui, vise les moyens qui permettent ces attaques et punit des mêmes peines l'importation, la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition de ces moyens techniques, matériels et logiciels. Petite parenthèse également, parce que vous devez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi, au moment donné, un des 577 députés, il lui prend de faire un texte de loi sur ce sujet. Mais c'est tout simple. C'est un journaliste qui, un jour, m'a proposé d'aller passer une heure dans un endroit où il y avait un véritable marché d'édition de logiciels. Et c'était un vrai marché clandestin, au point que les gens qui gardaient le lieu où avait lieu ce marché sont devenus menaçants, ils nous ont chassés, et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Voilà. Mais je peux vous dire qu'il y avait absolument de tout sur ce marché clandestin de logiciels. Et ça correspond au 323, alinéa 3-1. Enfin, la tentative de commission de tous les délits est punie des mêmes peines. Le champ d'application étant défini, les conditions d'application de la loi ne devaient pas être non plus trop restrictives. J'ai d'ailleurs été l'expliquer à un moment donné, un an après, si je me souviens bien, lors de conférences à l'École nationale de la magistrature, dès la promulgation de la loi. Au passage, aujourd'hui, j'observe que dans toutes les juridictions de France, il y a une très bonne documentation sur la question, mais en 1989, quand on allait dans les juridictions parler de ça, on se heurtait bien souvent à, et c'est pas de leur faute, à une très forte ignorance de nos amis magistrats. Mais ce n'était pas de leur faute. Ainsi, la protection d'un système informatique par un dispositif de sécurité n'est pas une condition de mise en œuvre de la loi. Le TGI de Paris, le 18 septembre 2008, en a fait état. Dans cette affaire de septembre 2008, un internaute avait accédé sans autorisation à la partie confidentielle de la base de données d'un site d'annonce immobilière de particuliers. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec une des personnes qui est ici. Je ne sais plus cette personne. Bon, c'était vous. Oui, c'était. Excusez-moi. C'était vous. C'était votre cas était très intéressant. Il y a donc, je vous conseille de regarder cet arrêté du TGI de Paris du 18 septembre 2008. Le juge a estimé que le délit est constitué dès lors qu'une personne non autorisée pénètre dans un système informatique, que celui-ci soit protégé ou non. Intéressant. En 13 ans d'existence, ce texte a été mis en œuvre à maintes reprises par des instances judiciaires, grâce à la collaboration efficace des services de gendarmerie et de police spécialisés, qui sont d'ailleurs d'un niveau tout à fait remarquable en Europe. À titre d'exemple, la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, plus connue sous le nom de la BEFTI, la BEFTI, l'ancienne SEFTI, est un service de la police judiciaire, dont je suppose qu'il doit y avoir un représentant parmi nous. Mes hommages. Mes hommages. Très bien. Ah, mais je suis allé dans vos murs. Sans badge. Mais vous n'étiez pas encore en fonction. Est un service. Bon, vous avez été créé en 94. Vous ne pouviez pas être en 94 au rang où vous êtes. Vous aviez pour mission, enfin votre institution avait pour mission de lutter contre les atteintes au système de traitement automatisé de données. Voilà la définition exacte. En 2000, deux ans plus tard, s'est donc créé l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Je parle sous votre contrôle. Et la police nationale dispose également de services spéciaux comme le site SI2T, qui est le service de l'informatique et des traces technologiques. Bon. Les domaines d'action, à l'heure actuelle, sont très, très variés. Intrusion dans les systèmes d'information. Lutte contre la contrefaçon sur support numérique. Captation frauduleuse de médias télévisuels cryptés. D'ailleurs, c'est assez amusant que l'on soit dans l'ancien immeuble de Canal+, ici. Incrimination traditionnelle utilisant les nouvelles technologies comme support de commission. Le vocabulaire spécialisé a beaucoup évolué. On parle aujourd'hui de killing pour la destruction de systèmes, de scanning pour la recherche de serveurs, de hacking pour l'intrusion dans un système, de skimming pour le vol de données de la piste de la carte au moyen d'une fausse façade, et de phishing pour la pêche aux mots de passe, etc. etc. Bon, vous avez remarqué avec quel ton, surtout devant un ami québécois, j'utilise ces mots britanniques. Les moyens d'investigation des services de police nécessitent une coopération internationale croissante. Et je voudrais, à la fin de mon propos, insister beaucoup là-dessus. Beaucoup, beaucoup là-dessus, parce que les frontières, vous le savez, n'existent pas. Et la coopération doit être très importante, croissante. Il y a Interpol et Europol qui aident notamment à faciliter les échanges de renseignements. De même, des conventions européennes ont été passées par les États membres, par exemple la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, incluant aussi les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Afrique du Sud. Au passage, la difficulté que nous rencontrions à l'époque, c'est que la culture de ces différents États n'était pas du tout la même en matière de reconnaissance du droit de propriété intellectuelle. Pas du tout. Il s'agit d'une convention pénale, celle de 2001, sur le cybercrime destiné à harmoniser les 47 pays signataires à la nécessité d'avoir une législation sur le sujet d'une part et de prévoir des sanctions pénales cohérentes avec une échelle de peine équivalente d'autre part. L'Azerbaïdjan et le Monténégro ont été les derniers pays à ratifier. Intéressant de savoir ça. Toutefois, il existe des obstacles à la lutte contre la cybercriminalité, vous le savez. D'abord, les réseaux sont vastes. Donc le principe de la territorialité de l'infraction est complètement bouleversé. Plusieurs pays peuvent être concernés par une seule infraction et très rapidement également juste par un clic. La recherche de la preuve peut se confronter au respect des libertés fondamentales, comme le droit à l'anonymat, à la vie privée ou à la liberté d'expression dont également nous parlions en aparté avant la réunion. Certaines infractions ne le sont pas d'un pays à l'autre. Un petit exemple, la promotion du cannabis. Ça n'a pas du tout la même portée d'un pays par rapport à un autre. Certains pays punissent la fraude informatique plus lourdement que la France. Le Portugal, pour qui c'est un crime, et d'autres moins que la France. Alors, pour conclure, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier l'arsenal législatif français existant. Il est urgent, par contre, de mieux coordonner et d'harmoniser nos systèmes respectifs d'une part, et de se donner les moyens d'investigation nécessaires d'autre part, face aux nouvelles méthodes technologiques existantes et qui sont, elles, sans cesse en mutation. Voilà ce que je voulais dire en commençant cette séance et en vous souhaitant pour la suite un excellent débat sur un sujet qui reste très passionnant. Merci beaucoup.